France Inter. Midi et demi, 14h, le grand rendez-vous, Bruno Duvic.
Nous sommes avec Mathieu Vidard et son invité pour la Terre au Carré. Mathieu, un sujet de tension aujourd'hui, nous allons parler de la chasse.
Oui Bruno, il y a quelques jours, 63 députés et sénateurs réclamaient dans un texte l'interdiction des chasses traditionnelles. Ils y dénonçaient des techniques violentes, non respectueuses pour les animaux et leur environnement. Et parmi elles, le déterrage des blaireaux, particulièrement cruel, ou la chasse à la glu, qui est illégale et interdite en France, sauf dans 5 départements. Selon les parlementaires signataires, les chasses traditionnelles ont une forte connotation négative qui pèse lourdement sur la réputation des chasseurs et la perception de la chasse en général. Ils jugent ces pratiques archaïques et plaident pour une chasse modernisée, plus en phase avec les enjeux de conservation des habitats naturels et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Les associations de protection des animaux reprochent d'ailleurs au passage aux députés signataires de cette tribune d'avoir exclu la chasse à courre de leurs préoccupations, une pratique elle aussi jugée d'un autre âge.
Cela dit, Mathieu, la chasse reste encore très populaire en France.
Oui, en effet, plus d'un million de pratiquants dans notre pays. La chasse, troisième loisir derrière le football et la pêche. Pourtant, cette activité fait l'objet depuis plusieurs années d'une incompréhension croissante de la part des Français qui se montrent critiques. Un sondage récent réalisé par IFOP montre une forte évolution des opinions sur la chasse concernant en particulier la sécurité. 71% des Français ne se sentiraient pas en effet en sécurité dans la nature pendant la période de la chasse. 82% souhaitent que le dimanche devienne un jour non chassé. Comme va nous l'expliquer notre invité, cette incompréhension croissante entre les Français et les chasseurs est due à un changement de sensibilité écologique de la part du public et l'urbanisation des modes de vie. La chasse et plus largement la mort animale ne font plus partie du quotidien d'une large majorité des Français. Et la question du bien-être animal est devenue centrale pour beaucoup de nos concitoyens. Afin de redorer leur blason, les chasseurs ont donc essayé de changer leur image, en commençant par évoquer la passion et la tradition. Et puis est venue une nouvelle étape avec la défense de la chasse en tant que pratique écologique. Et aujourd'hui, c'est la notion de durabilité qui est mise en avant, un argument vert qui est aujourd'hui systématiquement avancé pour tenter de changer la perception auprès du public. Les chasseurs veulent mettre en avant leur rôle dans la biodiversité en rappelant qu'ils assurent l'entretien des milieux, qu'ils plantent des arbres, qu'ils mènent également des études scientifiques en faisant du comptage et de l'observation, et qu'ils sont aussi des sentinelles de la nature face aux risques sanitaires ou aux espèces invasives. Mais cette image du chasseur écolo a encore beaucoup de mal à s'imposer, malgré des campagnes d'affichage récentes, placardées dans le métro et un discours calé sur le langage des ONG environnementales. Des associations de protection de la nature comme la LPO qui rappellent que l'année dernière, la France a été poursuivie par la Commission européenne pour infraction à la directive oiseaux, pour manquement à ses obligations de protection des espèces menacées. Un sujet donc d'incompréhension et c'est l'occasion d'en parler avec nos invités.
Bonjour, notre invité. Bonjour Ludovic Ginelli.
Bonjour.
Sociologue à l'INRAE à Bordeaux, dans un laboratoire qui travaille sur les transformations socio-économiques des territoires face aux enjeux environnementaux. Vous avez beaucoup écrit sur le processus d'écologisation de la chasse qui s'est développé ces dernières années. Les auditeurs, ils sont déjà nombreux, nous rejoignent, mais la première question c'est pour Mathieu.
Oui, Ludovic Ginelli, c'est toujours très difficile d'organiser un débat sur la chasse sans tomber dans l'impasse d'un dialogue de sourds. Est-ce que vous pouvez rapidement quand même nous dire où vous vous situez, quels sont vos liens avec la chasse et quel est l'objet de votre travail ?
D'accord. Donc, pour ce qui concerne mes liens avec la chasse, je vis dans le sud-ouest, qui est une région où la chasse est encore fortement pratiquée. Malgré tout, elle est aussi de plus en plus controversée. Et moi-même, je suis chasseur. Pour autant, en tant que sociologue, je fais vraiment la part des choses entre mes pratiques personnelles et mes recherches sociologiques. Nous sommes formés pour ça. Et finalement, les sociologues, ils font toujours partie de la société qu'ils étudient. Et donc, on a toujours cette distinction à faire. Pour prendre un autre exemple, je travaille aujourd'hui sur la question des pesticides en agriculture, où bien évidemment j'ai mon opinion, mais je dois être à l'écoute et je dois analyser différentes positions sur le sujet. Donc je fais évidemment la même séparation en ce qui concerne la chasse.
Alors, je vous cache pas que les appels des anti-chasses sont largement plus nombreux que ceux des gens pour défendre les chasseurs, mais voilà, on va entendre quelqu'un qui défend les chasseurs et qui a peut-être changé d'avis. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez du Pays Basque.
Exact, je suis aussi dans le sud-ouest. Bonjour, merci pour vos émissions, je suis un fidèle.
Merci à vous.
Effectivement, j'ai 62 ans, j'habite au fin fond du Pays Basque, entre Cambo-les-Bains et Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai 62 ans et comme je disais à l'instant, j'étais vraiment pas pro-chasse, j'ai jamais eu d'armes à feu. Quand j'ai fait mon service militaire, j'aimais pas tenir ça en main pour les exercices, voilà quoi. Et récemment, une battue s'est déroulée devant chez moi, sur la route en bas de chez moi, et ils ont tué un sanglier mâle énorme, je suis descendu les voir. Et j'ai commencé à discuter avec eux, ils étaient une douzaine, et j'ai parlé avec 3-4 d'entre eux, l'un était informaticien, l'autre commerçant, le troisième vendait des voitures, bon, très bien. Et ce sont des gars comme vous et moi. Moi, j'étais un peu influencé par l'image des inconnus, du chasseur abruti qui n'a pas de plomb dans la cervelle. Et en fait, ce sont des types intelligents qui ont du discernement. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient vraiment embêtés, que si le sanglier sortait en ligne de mire de ma maison, ils n'auraient pas pu tirer parce que c'est interdit de chasser près des maisons. Ils ont badgé, je sais pas comment on dit, ils ont mis un badge sur le sanglier pour le déclarer aux autorités. Ils m'ont expliqué qu'on en tuait plusieurs dizaines de milliers par an, mais que le sanglier n'était pas en voie de disparition. Ils avaient été appelés à la demande des riverains autour de chez moi, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, quoi, et qu'il abîmait les cultures, et que, bien sûr, si c'était une femelle ou un jeune mâle, il ne l'aurait pas tué. Bref, on a discuté, j'ai même échangé mon numéro de téléphone avec deux d'entre eux, et j'ai changé d'avis, je suis allé voir sur Internet, je me suis renseigné, et ça n'est pas du tout la caricature qu'on peut croire. Alors, on pourra considérer que je suis un néo-rural, ça ne fait que 30 ans que j'habite à la campagne. Je suis né à Biarritz, mais je suis venu sur le Pays Basque intérieur parce que je m'y sens bien. J'ai des animaux, du terrain, bon bref. Voilà, donc j'ai réussi à me réconcilier avec des gens chasseurs, normaux et amoureux de la nature. Ils m'ont convaincu et je l'ai vu dans leur pratique. Je les vois depuis et voilà.
Merci Bruno pour ce témoignage. Ludovic Ginelli, est-ce qu'on a là un témoignage, je dirais, exceptionnel dans le contexte actuel, vu du sociologue que vous êtes et qui aurait rencontré des chasseurs exceptionnellement rigoureux et conscients de leurs responsabilités?
Mais ce que dit monsieur, je trouve que c'est assez intéressant et révélateur de l'écart qu'il peut y avoir entre, par exemple, des Français, donc le dernier sondage que vous citiez là sur 71% des Français qui se sentent pas en sécurité, 82% qui souhaitent un dimanche sans chasse. Donc là, les gens se prononcent de façon générale sur une activité. Ce sondage montre aussi que 88% des Français ne chassent plus aujourd'hui. Donc quand ils ont à se positionner de façon générale sur une activité qu'ils ne connaissent pas, ça produit ses opinions. Et effectivement, moi je travaille plutôt par interview, avec ce qu'on appelle dans notre jargon des entretiens semi-directifs. Et quand je rencontre certains non-chasseurs qui connaissent, qui ont l'occasion de rencontrer sur leur lieu de vie des chasseurs, eh bien souvent les jugements sont beaucoup plus nuancés. Ça peut dépendre, évidemment, qu'il y a des dérives, selon les types de chasse, plus ou moins artificielles, suivant si elles nécessitent ou pas une forte connaissance de la nature, on a des jugements qui peuvent être beaucoup plus nuancés que ceux qui peuvent ressortir de sondages où les gens en fait se prononcent de façon générale sur une activité qui ne fait plus partie de leur quotidien aujourd'hui, puisque effectivement les Français sont de plus en plus urbains et évidemment la chasse fait plus partie de leur quotidien.
Alors encore une fois, en sachant que là, le témoignage par rapport à ce qui nous arrive au standard est très très minoritaire. Avant de retourner au standard, Mathieu Vidard, à vous.
Oui, cet élément-là n'est pas surprenant non plus, il est le reflet en fait des sensibilités des Français. Plutôt urbain et plutôt de façon générale qui ne comprend éloigné, opposé à la chasse, ou en tout cas qui ne comprennent plus cette pratique qui est effectivement décalée par rapport à leur quotidien.
Mathieu.
Oui, on a eu beaucoup de messages. Il y a Corinne, par exemple, qui nous dit comment les chasseurs peuvent prétendre être les premiers écologistes de France quand ils pratiquent le déterrage des blaireaux en utilisant des pinces, quand ils chassent en enclos des animaux élevés pour être abattus, quand certains se déplacent en SUV en laissant des canettes de bière ou des boîtes de conserve. Je sais que tous les chasseurs d'Itel n'agissent pas ainsi, mais certaines pratiques et certains comportements sont pour moi inacceptables. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, Ludovic Ginelli?
Alors moi, en tant que sociologue, évidemment, je n'ai pas à me prononcer sur qui est le premier écologiste de France, évidemment. Il faudrait pour ça des indicateurs écologiques, je ne sais pas s'ils existent, et même ils seraient discutables. Évidemment, les pratiques de chasse sont très diversifiées. Ce que dit cette auditrice est vrai, existe. Il y a aussi d'autres types de chasse. Enfin, si vous voulez, les deux sont vrais. Ça dépend toujours de ce qu'on retient de la pratique. Il y a effectivement des chasseurs en 4x4, etc. Tout ce que l'a décrit la personne. Il y a aussi une action des chasseurs sur les zones humides, par exemple, qui se traduit aujourd'hui par une acquisition de foncières de plusieurs dizaines de, enfin plusieurs milliers d'hectares. Il y a une action sur les milieux naturels qui peut avoir un intérêt pour la biodiversité, qui est contestée par d'autres. Voilà, donc c'est très ambivalent. Les deux sont vrais et ça dépend toujours, c'est vraiment le cœur du débat. Ça dépend de la manière dont on regarde cette pratique.
François au standard de France Inter, bonjour François.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de l'association Rassemblement pour l'abolition de la chasse.
Oui, c'est ça, je suis président de cette association. Je dois dire tout de suite que mon père était chasseur et que j'habite en milieu rural, parce que c'est souvent donc mis en avant comme l'expression de personnes urbaines. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui, monsieur le sociologue, doit quand même aussi l'admettre, qui parcourt cette activité, c'est tout de même la violence, hein, qui est quand même présente toujours. Donc à chaque fois qu'on met... Mais il y a une question qui m'intéresse, c'est que qu'est-ce qui empêche en fait de penser l'abolition de la chasse aujourd'hui ? Parce qu'à chaque fois que l'on met en cause cette activité, qui est une activité de loisir, de divertissement, comme le reconnaissent les chasseurs eux-mêmes, il y a un malaise. Alors qu'on est nombreux quand même à penser que cette activité qui désorganise les équilibres naturels en faveur de son activité, il y a 20 millions d'animaux qui sont lâchés, sortis des élevages pour être chassés chaque année, il y a la multiplication par 14 des sangliers en 40 ans, par 9 des cervidés, c'est la source au NCFS. Les chasseurs créent des problèmes, ensuite ils disent qu'ils sont la solution pour les régler. Et ensuite, ils détruisent également des espèces utiles en les faisant classer comme nuisibles, le renard, les mustélidés. Alors, il ne s'agit pas de ne rien faire, mais admettre que l'on pourrait facilement mettre en place une organisation qui gérerait non pas la faune, car s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas lieu d'intervenir et d'agresser, mais les interactions entre la présence de la faune et les activités humaines. S'il y a un problème, on trouve des solutions qui se substituent à la brutalité, l'agression, la violence. On lutte socialement contre la violence et on tolère pire, on l'encourage au pied de nos maisons. Nous n'avons aucune raison d'agresser le monde animal, il ne veut pas de mal, il ne cherche pas de nuire. Il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, c'est à nous de trouver des solutions. Il paraît que l'homme est très intelligent. Il le démontre.
Et merci.
On verra qu'il y a très peu d'espèces concernées par les problèmes. Il y a les grands ongulés, le lapin, quelques espèces d'oiseaux, soit moins d'une dizaine, alors qu'aujourd'hui, il y a 90 espèces chassables.
Merci.
Donc 20 espèces d'oiseaux en danger.
Merci François. Merci pour ce témoignage. Ce que je retiens aussi, c'est la notion de violence. Ludovic Ginelli, quand on travaille comme sociologue sur cette question-là, est-ce qu'on est l'objet de pression ? On sait que le lobbying du monde de la chasse est important dans le monde politique. Est-ce qu'il y a un lobbying aussi auprès du monde de la recherche ?
Personnellement, j'en ai jamais eu à faire l'expérience. Vraiment. Peut-être parce que je crois, toujours été assez clair sur ma posture, y compris quand j'ai eu l'occasion d'aller voir des acteurs très variés, aussi bien des chasseurs, j'ai travaillé sur le parc national des Calanques, où il y a de la chasse, donc j'ai eu des interlocuteurs différents, et à chaque fois j'ai bien précisé ma posture de je suis là en tant que sociologue pour analyser les positions des uns et des autres, et je livre mon analyse. J'ai pas eu, évidemment que ce lobby existe, mais j'ai pas eu à en subir les conséquences du tout.
Mathieu.
Sur la question de la violence,
allez-y.
Nous, en sociologie, on analyse la chasse et en fait tous les usages de la nature comme des pratiques socioculturelles. Et cette définition, cette approche de la violence, évidemment que les chasseurs, quand ils commencent leur pratique, souvent ce sont la chasse fait partie c'est une pratique qui va de soi dans les milieux sociaux dans lesquels ils sont, et la définition, évidemment, ils ne perçoivent pas leur activité comme violente. Et ce qu'il faut dire aussi là-dessus, c'est que c'est une pratique qui évolue, c'est-à-dire que la définition de la violence aujourd'hui pour les chasseurs, elle est différente de celle qui pouvait être celle de la violence au 19e siècle, voire avant. Et ça se traduit par une évolution constante des règles de chasse,
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se faisaient il y a 50 ou 60 ans qui ne se font plus aujourd'hui. Pour ne pas avoir une image trop figée des choses.
Et Mathieu, avant de vous redonner la parole, beaucoup de messages qui rejoignent ce que nous disait François à l'instant et qui disent que les chasseurs alimentent leur loisir en lâchant du gibier, en nourrissant les sangliers. Comment concevoir dans ce cas leur côté écolo ? Mathieu.
Oui, justement, toujours sur l'argument de la régulation, quelle est votre position là-dessus, Ludovic Ginelli ? C'est l'argument que, justement, proposent les chasseurs. Or, effectivement, il y a énormément d'animaux chassés qui n'ont pas besoin d'être régulés. Une grande partie des animaux chassés font aussi partie d'élevage. Donc, est-ce que cet argument est recevable, au fond ?
Je ne vais pas me prononcer sur le caractère recevable ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que cet argument de la gestion de la faune, il est très lié à certains gibiers, dont notamment le grand gibier, donc sanglier, chevreuil, cerf. Il se réfère à une époque. Il a été construit. Cette justification-là, elle a été construite à un moment donné. Et par exemple, l'argument de la chasse-gestion, c'est pas celui qui est déployé pour la chasse aux oiseaux migrateurs. Mmh. C'est plutôt là, d'une part la tradition, mais c'est un argument qui s'est un petit peu essoufflé, qui a été très présent dans les années 80 avec chasse, pêche, nature et tradition. Aujourd'hui, ces chasses aux oiseaux migrateurs, elles se justifient plutôt par une action sur les milieux naturels, des actions bénéfiques pour la biodiversité, même si c'est contesté par d'autres acteurs. Mais ça n'empêche pas aussi qu'il existe effectivement des chasses tout à fait artificielles avec des gibiers lâchés, des gibiers d'élevage.
Nous allons retourner au standard. Une femme nous appelle, une chasseuse. Bonjour Chris.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je le ferai court. Simplement, je voulais apporter mon témoignage. Je chasse dans le Haut-Languedoc depuis l'âge de 14 ans. Donc, j'ai commencé avec mon père. Et je peux vous dire que chez nous, les chasseurs ont un grand respect pour l'écologie, pour les animaux et pour la nature. Et je peux vous dire que ce sont les seuls à entretenir les sentiers, que ce soit les sentiers de randonnée ou à déboiser, à débroussailler. Et de plus, s'il n'y avait pas ces chasseurs, comment ferait-on ? Nous sommes envahis par les sangliers, les lapins qui mangent toutes les cultures. Il y a un moment où l'équilibre écologique est vraiment menacée par une surpopulation. Donc je pense qu'il faut être un peu plus pondéré par rapport au jugement porté sur les chasseurs. Voilà.
Je peux me permettre, Chris,
oui,
est-ce que vous êtes isolée, vous, femme, au milieu de beaucoup de chasseurs, ou est-ce que vous avez des copines de chasse, entre guillemets ?
Non, alors écoutez, moi j'ai toujours chassé avec des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui chassent dans mon coin,
oui.
Mais je chasse beaucoup seule autour de chez moi, donc je suis habituée, voilà, c'est comme ça.
Merci pour ce témoignage, Ludovic Ginelli, ça mène la question, c'est un milieu très masculin, celui de la chasse.
Oui, tout à fait. Oui. Même si les chiffres montrent une timide augmentation du nombre de femmes à la chasse, je crois que c'est de l'ordre de 98% d'hommes. Oui, effectivement, oui.
Allez Mathieu, il nous reste 45 secondes. Une dernière question.
Oui, pourquoi selon vous la pêche bénéficie d'une assez bonne image comparée à la chasse, justement ?
Alors c'est vrai, je pense que la grosse différence c'est la présence d'armes dans un cas et pas dans l'autre. Et ceci dit, la pêche et d'autres loisirs de nature, de prédation, ça je l'ai pu l'observer dans mes recherches, elle est aujourd'hui questionnée un petit peu de la même façon que la chasse, parce que par rapport à de nouvelles éthiques, par rapport au bien-être animal, et donc des questions qui ne se posaient pas pour la pêche, il y a quelques années, se posent aujourd'hui. Par exemple, même la pêche no-kill, donc le fait de relâcher le poisson vivant, c'est contesté aujourd'hui par certains, parce que le poisson est stressé, il ne survit pas toujours. Donc finalement, des questions qui se posaient sur la chasse se posent aujourd'hui à d'autres activités de prédation et même à d'autres loisirs de nature.
Merci Ludovic Ginelli d'avoir répondu à nos questions depuis Bordeaux. Mathieu, on retrouve La Terre au Carré, une rediffusion après 14h. Quel sera le thème ?
Eh bien, on va parler des métiers de la nature, par exemple.
Eh bien, à tout à l'heure et à demain dans le grand rendez-vous.